CFM. CFM. À qui le tour? 17h30, 19h. CFM.
Oula, c'est quoi ce générique?
C'est un extrait de la BO de Deadpool.
D'accord.
Moi, bon, j'ai cru qu'on allait animer l'émission de sport, dites donc.
La fameuse scène, tu sais, où il est sur l'autoroute et il dit « Merde, j'ai oublié toutes mes munitions, il me reste que 12 balles. Tant pis, on y va comme un champion. » Et c'est la scène justement où il tire avec ses 12 balles, où tu vois les douilles avec 10.
D'accord. Oui. Bah, mon petit Jean, toi qui adore parler comme un chartier, tu devais être ravi, tu devais jubiler hein, pendant...
Mais j'étais mort de rire du début jusqu'à la fin et même la scène post-générique, mais j'en pouvais plus. Littéralement, c'est une des meilleures surprises de ce début d'année, je crois.
Alors,
mais je suis pas totalement d'accord. C'est pour ça que je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure.
D'accord. Nous allons lire à l'antenne les critiques de films des auditeurs. Toi, tu nous parleras donc de Deadpool, entre autres.
Entre autres.
Et bon.
T'en as pas parlé la semaine dernière.
Bonjour
si,
Florian.
J'ai d'autres choses à apporter.
Bonjour Rémi.
Comment ça va?
Ça va bien. Moi aussi, je suis à voir Deadpool.
Et c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui?
Je peux vous parler de ma vie aussi.
Oui. D'accord.
Oui, non, je vais vous parler de Deadpool.
Ok, bon, je vous avoue avoir un petit souci d'informatique. Je n'arrive pas à ouvrir la page des auditeurs.
Nous avons donc aujourd'hui les critiques de Gilles qui est allé voir Demain. Eridan, il est là. Deadpool. Manu qui est allé voir Joséphine Sarondi et Les Tuches 2. Margot 916 est allé voir un spectacle de magie et Sarah The Boy.
Eh ben alors on commence, vas-y c'est toi qui commence le temps que moi j'arrive à régler
Allez,
mon problème
demain,
informatique.
Demain de Gilles qui a un petit message en plus pour toi en fin de critique. Demain, voilà le film que la COP21 aurait dû montrer à tous les grands de ce monde. Que CFM en fasse une copie à Ségolène Royal. Plus pertinent que de grands discours politiciens, ce film offre de magnifiques images, une histoire qui fait grandir le spectateur et une réalisation à rester pantois devant l'écran. Pas besoin de grands effets spéciaux pour être ému en forêt par les poursuites, en immersion, dans une meute de loups ou la vie à hauteur des yeux d'un hérisson. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est d'avoir trouvé encore autant de lieux comme cela en Europe. Ce document montre une nouvelle fois, la beauté du monde, mais qui nous entoure et nous fait prendre conscience de ce que nous allons perdre si nous nous obstinons à détruire tous ces magnifiques lieux sauvages. Rémi, c'est pour toi. Je sais que Rémi va trouver mon commentaire désuet, pour ne pas dire ringard. Mais n'y attachez pas d'importance. Et allez vous faire une idée de la qualité de ce beau film et de la beauté du monde autour de Montauban, mais de Rodez, ça doit marcher aussi, au cœur de nos campagnes. Et donc Gilles a noté le film Demain 4 sur 5.
C'est vrai que les vergers autour de Montauban, c'est magnifique.
Bah mon petit Gilles, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Toi tu m'en veux comme ça. Manu est allé voir Joséphine Sarondi. Mais quelle énergie, ça percute, ça claque dans tous les sens, c'est dynamique, survolté, malin, juste et très bien fait. Merci Marie-Lou Berry. Manu de Castelsarrasin a noté ce film 4 sur 5.
Elle est pas un peu vieille Mimi Mathy pour être enceinte?
Ça a rien à voir, Mimi Mathy et Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry...
Joséphine Ange Gardien.
Et alors
Joséphine Sarondi, Joséphine Ange Gardien.
Non, elle était
attends que ça monte.
Oh là là, pardon, il faut que ça monte. Ouais, c'est.
Voilà. Non, moi personnellement, je la trouve très bien.
D'accord, oui. Moi j'ai vu Les Tuches 2.
Ah, allez. Ça m'a
fait. Je lis celle de Manu avant que
jusqu'au bout, hein.
Tu donnes la tienne.
Bah ouais, vas-y.
Eh bien, ma foi, quel plaisir de retrouver cette famille folle dingue et loufoque. Véritable sens de l'absurde. Comédie franchouillarde et crétine, mais tellement bien menée que l'on pardonne tout. Rigolade assurée. Et donc Manu l'a apprécié, sans plus non plus, hein, 3 sur 5.
Ah bah ouais, mais voilà, c'est ce que ça vaut 3, mais c'est une petite poilade sympatoche, tu vas passer une heure et demie où tu sais que tu vas rigoler un peu, c'est marrant comme tout Les Tuches, moi j'aime bien, puis j'aime bien comment ils parlent.
Mais voilà. Tu sais Rémi, que quand tu nous as dit que t'adorais Les Tuches, on s'est foutu de ta gueule pendant un bon moment, mais ceci étant, quand on est allé voir Chien de Poule avec Jean, c'était le premier week-end de sortie des Tuches.
Exactement.
Et rappelle-toi, mon petit Jean, il y avait un monde fou pour aller voir Les Tuches. La salle était complète. Voilà. Donc nous, on est passé devant eux en faisant des voix d'honneur.
En ce moment, je trouve que t'as justement envie de ce genre de film où tu peux poser un peu ton cerveau et.
Ouais. Et enfin, en attendant, moi, Les Tuches, je peux pas les encadrer. Je suis bien content que Deadpool ait assuré le meilleur démarrage de ce début d'année devant Les Tuches, justement.
Ouais, mais voilà. C'est parce que toi, t'es
t'es pas content, tu te feras un cancer dans 2-3 ans.
C'est ça. C'est... Je mourrai jeune.
C'est ça.
Tu me regretteras.
Bon, les élitiste, Jean.
J'ai vu le 1 à la télé dernièrement, parce que du coup, ils ont dû le diffuser parce qu'il y a le 2 qui sortait.
Dis-moi que t'es de mon avis.
Bon, ça allait très bien à la télé.
Voilà.
Je courrais pas au cinéma pour aller voir au cinéma.
Merci.
Mais qui court au cinéma ici?
Bah regarde, pour aller voir
moi,
Deadpool, il court.
Moi, maman.
Court, genre.
Ah non, mais Deadpool.
Moi, je sprint pour voir.
Deadpool, ça valait le coup. Moi, j'ai fait même un faux départ, hein, parce que j'ai voulu y aller à l'avant-première. Je suis arrivé en retard. Du coup, je me suis retrouvé à manger mon sandwich en face. En attendant que ça finisse.
Mais Aurélien, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Les tuches en 3D, ça déchire.
Bon alors,
ça doit faire
Deadpool,
peur,
sorti des studios
de la 20th Century Fox, mais je vais d'abord laisser Flo en toucher deux mots, et puis après moi je viendrai rajouter quelque chose dessus.
Merci très cher.
Mais de rien.
Eh bien, alors pour ceux qui connaissent pas Deadpool, il faut savoir que c'est un personnage qui est à part dans l'univers des comics Marvel. Il dispose d'une personnalité hors norme, d'un type de narration inédit, et est probablement le plus violent des anti-héros. Première bonne nouvelle, le film est interdit au moins de 12 ans. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, un minimum même, pour ne pas dénaturer un personnage qui passe son temps à étriper, décapiter ou torturer ses ennemis. Car Deadpool est un sale type, obsédé, dont l'humour dépasse rarement le niveau de la ceinture. Mais au moins, il a le mérite de dépoussiérer tous ces héros trop gentillés qui donnent naissance à des longs métrages hyper conventionnels destinés au jeune public. Cette fois, les mômes restent à l'entrée et les adultes s'éclatent, devant un mélange d'actions punchy et de blagues graveleuses. Adieu les bisounours et bonjour Deadpool. Et franchement, ça fait du bien. Et j'ai mis 4,5 sur 5.
Voilà, donc on se merci Flo. On sait tous.
De rien.
On sait tous maintenant que la 20th Century Fox est une des plus grosses firmes cinématographiques les plus lucratives de ces dernières années. Enfin, surtout quand on a Monsieur James Cameron qui a pondu Avatar et Titanic, hein, pour venir enflouer les caisses. Parce que sinon, ce ne sont que des coups de poker. Et comme le hasard est une pute frigide, soit ça passe, soit ça casse. Oui, j'ai vu Deadpool, du coup, mon vocabulaire a évolué.
Oh, voilà.
Elle est de toi, la pute frigide?
Ah, et je ne te dirai pas, je ne dévoile pas mes sources.
Elle est pas de lui.
Voilà. Et 2015, pour la Fox, c'était vraiment une année merdique. Genre, une des plus pourries que la Major n'ait jamais connue. Seuls quelques petits irréductibles ont su se faire un nom en tête du box-office, comme Kingsman, Seul sur Mars, Labyrinthe 2 ou encore Le Pont des Espions. Ça, c'est pour ceux qui se sont fait une petite place dans le top 10 des meilleurs films de 2015. Parce que les autres, on pourra citer ce merveilleux exemple qu'est Les Quatre Fantastiques, Hitman, Agent 47, Spy ou encore Dr Frankenstein. Mais voilà quoi, moi, je vais pas en parler pendant 30 ans non plus, ça servira à rien, je les ai assez démontés comme ça à l'antenne. Donc, eh ben, on va se pencher sur sur les plus gros ratés, à mon sens, de la Fox, ceux qui ont connu une production un peu douloureuse, et puis le cas Deadpool, quoi, qui risque de changer littéralement tout à Hollywood. Donc, on peut parler déjà de Jumper, qui a eu une production vraiment douloureuse pour le coup. Tu peux le sentir quand tu regardes le film. Moi, je me le suis refait il y a pas longtemps. Alors, mis à part le fait que c'est un film de science-fiction carrément nié avec Jimmy Bell.
C'est dans la famille, ils sont jumpers de père en fils.
C'est ça, exactement.
Ah, j'y vais bien le principe, moi, ça m'avait étonné au départ.
Le concept est vachement excitant, mais le truc, c'est que c'est super nié, quoi. Samuel E. Jackson avec des cheveux blancs mouton, Jimmy Bell qui cause wesh wesh et qui, enfin, il fait un peu le mec un peu grunge, tout ça. Enfin, moi perso, ça m'a pas plu du tout. Et la production, c'est constitué d'une équipe, on va dire, de bras cassés, quoi. Pour citer l'exemple, par exemple, de Monsieur David Ritchie, hein, qui était chef décorateur du projet et qui est mort à cause de conditions hivernales de l'époque et en voulant juste démonter un décor, tu vois. Ils ont tourné à Toronto et il est mort en voulant démonter un décor. Normal, tu sais. Un autre a été grièvement blessé et a dû être hospitalisé pour cause de blessures à la tête et aux jambes. Et pareil pour l'acteur principal qui, à Tokyo, devait exécuter ses propres cascades et le réalisateur lui a dit « T'inquiète, ça va passer crème ». Ben résultat, blessure super grave demandant donc une hospitalisation d'urgence.
Par contre, Jean, t'es au courant qu'ils ont lancé la pub depuis 2 minutes, là?
Ouais, je sais. Donc après, je pourrais vous parler d'Alien 3, mais bon, ça, c'est pour tous les cinéphiles les plus aguerris, tout le monde le connaît. Daredevil, je vais pas revenir dessus.
Oh, Daredevil, c'est une daube infâme, ouais.
La version longue est vachement meilleure que la version cinéma. Sérieux.
Je pensais te la taper. Ouais.
Les 4 Fantastiques, j'ai tapé dedans tant que j'en pouvais et je vais pas revenir dessus. Et X-Men Origins, voilà. Et c'est à partir de là que tout a commencé. X-Men Origins, c'est le point de départ de l'attente de Deadpool.
Ça fait 7 ans que le film est sorti, ça faisait 7 ans que les fans attendaient le personnage, et justement, ben, on a eu Deadpool qui est sorti récemment au cinéma. Et je suis sûr que tu ne t'y attendais pas à celle-là, que je le cale dans les ratés de la Fox. Et ben, ça tombe bien, moi non plus. Au départ, je voulais pas l'intégrer parce que le film est une tuerie et c'est une excellente adaptation en plus d'être une origin story sympathique. Mais voilà, je le cale là-dedans. Pourquoi donc ? Pour la raison suivante, il aura fallu attendre 7 ans, donc blablabla.
Ah bah si tu fais des chroniques comme ça maintenant, on va y arriver. Hein.
Résultat, pourquoi est-ce que la Major a été aussi frigide ? Parce que c'était trop violent, que ça allait pas plaire, que les films de super-héros bien plus sombres marchaient comme The Dark Knight à l'époque. Et le résultat, le film cartonne plus que prévu et cela va faire réfléchir les studios sur la possibilité d'adapter des histoires plus trashouilles de derrière les fagots.
Ce sera bien quand même qu'ils rajoutent un petit peu de scénar, hein, ce sera un peu plus rigolo quand même.
Est-ce que cela est une bonne chose ? Oui et non. Oui, parce que cela veut enfin dire que l'on peut respecter le matériau d'origine, le rendre encore plus crédible à l'écran et envisager d'introduire de nouvelles franchises dans cet univers. Et enfin non, parce que cela risque de devenir carrément lassant. Si on se bat sur des exemples comme Blueberry, l'expérience secrète, le film a marché...
On n'avait pas dit qu'on faisait pas des chroniques trop longues.
Mais je Flo est mon maître, tu sais très bien qu'il nous pend des trucs super longs. Blueberry, c'était un film français complètement sorti de nulle part à l'époque. C'était un genre qu'on n'avait pas forcément vu. Résultat, on nous a pendu ensuite dans la foulée d'Artagnan.
Qu'est-ce que ça a à voir d'Artagnan
avec D'Artagnan, c'est les trois mousquetaires façon Blueberry. C'est le même style, c'est la même façon de filmer, sauf que c'était nul. Voilà, tout simplement.
C'est de la Fox, ça aussi? Je croyais que tu parlais de la Fox, là, depuis tout à l'heure.
Ouais, mais je
sais plus de quoi tu parles, en fait. Je suis perdu, là.
Ouais, mais c'est pas très grave encore.
Florian, aide-moi.
Moi, j'étais en train de réfléchir au dîner de ce soir.
Et encore un exemple.
Le dernier, parce que non, il faut qu'on passe à autre chose. On a encore une
personne au téléphone.
Exemple avec Les Gardiens de la Galaxie. Le film est une adaptation de comics, certes, mais baignée dans une ambiance musicale so 80s qui n'est pas déplaisante. Résultat, les trois quarts des bandes annonces que vous pouvez regarder contiennent au moins un titre de cette douce époque et plusieurs morceaux sont inclus dans le film. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'un bon film pour que tout le monde suive le mouvement tel des moutons rentrant dans la bergerie. Cela ne fera pas arranger les choses. Cela va juste transformer les studios en imbéciles prêts à tout pour faire en sorte d'avoir du succès. C'est pour ça que Deadpool, moi je suis content qu'il soit sorti. Je suis content que ça marche. Je suis content que ce soit trash, gore, qu'il y ait du sexe à foison, etc. Mais après, est-ce que c'est forcément le bon exemple pour qu'on ait d'autres bons films à la clé ? Je sais pas.
Voilà, on retiendra une réflexion de l'ouvreuse le soir où je suis allé voir Deadpool. Écoutez les ouvreuses, parce qu'il y avait un monsieur qui voulait rentrer avec son fils, il avait 11 ans.
Ah ben non.
Et donc l'ouvreuse, elle lui a dit, non monsieur, votre fils il a 11 ans. Et elle a dit, ouais mais ça va, je suis son père, je suis responsable. Non, t'es peut-être responsable, mais si tu vas voir Deadpool, il y a du sexe, c'est trash, il y a des mots, il y a de l'ultra-violence.
Oui.
Donc voilà, si t'es responsable, t'emmènes pas ton gosse de 11 ans. Mater un porno quoi.
J'ai cru que t'avais demandé voilà si c'était s'il y avait du cul et si c'était vulgaire.
Oui. Voilà. Mais sachant qu'aux États-Unis, il est déconseillé au moins de 17 ans non accompagné d'un adulte, je trouve qu'en France, on est trop laxiste de le déconseiller au moins de 12 ans, quoi.
Mais toi, déjà, que tu puisses aller le voir tout seul.
Ouais.
The Boy, c'est Sarah qui est allée le voir de Toulouse. The Boy, déçu. Je m'attendais à un vrai film d'horreur. J'avais plutôt envie de rire pendant le film. Dommage. Voilà. The Boy, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas vu.
Je veux pas savoir non plus.
Si, si, c'est un garçon en porcelaine. C'est vrai, c'est pas une blague. Voilà. Ça fait peur apparemment.
C'est le petit frère.
Apparemment pas tant. Apparemment.
Excusez-moi, j'écoute pas du tout.
Mais il est réellement en train de préparer son.
Je prépare ce qui se passe tout à l'heure. Oui.
Et on a Margot 916. Alors elle nous dit qu'elle est allée voir le spectacle de magie accompagnée de sa petite sœur. Elle a trouvé ça super, adapté aux jeunes enfants. Le magicien a d'ailleurs fait participer plusieurs enfants. C'était très attractif, très bien construit et bravo. Mais c'était quel spectacle de magie ?
Ça, c'était dimanche après-midi. On avait offert quelques places pour ce spectacle de magie interactif. Spectacle qui a eu lieu dans pas mal de caps cinéma, Rodez, Montauban, tout ça. Et donc, rappelle-toi, on a interviewé le prestidigitateur dans cette même émission la semaine dernière. Et il nous avait dit qu'il y avait de l'interactivité avec un spectacle qui se prolongeait jusque dans l'écran. Dans quelques instants, je vous propose une conversation avec le réalisateur d'un documentaire. Le parti pris, justement, de sa narration est assez intéressante. C'est François Ruffin, journaliste, fondateur de la rédaction Fakir, du journal Fakir, qui a réalisé donc Merci Patron, qui sera en sortie nationale le 24 février prochain et qui va être diffusé en avant-première au Cap Cinéma de Caussade le 23 février lors d'une soirée débat animée par Christophe Bex, militant associatif et correspondant du journal Fakir sur la région toulousaine. Donc François Ruffin au téléphone avec nous, c'est après la pub.
Et je compte sur vous pour lui demander s'il a mis le tube de Michel Chrome. Hein. Merci patron, obligé.
Merci, oui, c'est vrai que c'est une question qui pourra faire avancer
c'est
le débat.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Envie de devenir animateur, directeur de structure de loisirs peut-être, ou de garder des enfants? Alors l'Institut IFAC à Montauban est là pour vous. Formation BAFA, BAFD, approfondissement sur de nombreuses thématiques, qualifications telles que canoë et kayak ou surveillant de baignade. L'IFAC Montauban, c'est des stages en période de vacances scolaires sur Montauban et Midi-Pyrénées. L'IFAC forme au CAP Petite Enfance sur Montauban, Toulouse ou Muret pour travailler en crèche, en école ou à domicile. Bref, l'IFAC Montauban, c'est l'allié local indispensable de vos futures formations. Infos et coordonnées sur bafa-bafd.com. Avec inscription en ligne.
Exceptionnel dans la région, le guide Pastime. Pour des sorties sympas en famille ou entre amis, vitalisez votre pouvoir d'achat. Plus de 100 partenaires vous accueillent toute l'année avec une large sélection de restaurants, loisirs et commerces qui vous proposent des réductions allant jusqu'à moins 50%. Il est amorti en seulement une ou deux sorties. Vous ne pourrez plus sortir sans lui. Avec Pastime, sortez plus, dépensez moins.
Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
Maman, maman, t'as vu? Il y a un trait sur le pare-brise.
Je sais, chérie. Le pare-brise est cassé, mais je vais avoir une franchise à payer pour le remplacer.
Mais non, chez Rapid Pare-brise, tu ne paies rien. Et en plus, si t'as pas de franchise, on t'offre une tablette tactile.
Ah bon? Chez qui tu dis?
Chez Rapid Pare-brise, 505 avenue de l'Europe, à Alba Sud Montauban.
Rapid Pare-brise? Ok, on y va.
Et oui, vous aussi, n'attendez plus. Allez chez Rapid Pare-brise pour vos vitrages automobiles. Avenue de l'Europe, à Alba Sud Montauban. Et en plus, une carte totale de 25€ attend les 50 premiers clients. Dépêchez-vous.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas. Un jour, Dieu vous le rendra.
Alors, merci patron par ce titre des.
Hein? Des Michel Chrome.
Des Michel Chrome, voilà, c'est surtout le titre du dernier documentaire de François Ruffin, créateur de la revue Fakir. Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à l'occasion de la sortie très prochaine là, et puis de la grande tournée que vous faites en avant-première de votre documentaire qui va passer donc près de chez nous le 23 février. Alors vous n'y serez pas présent, mais il y aura un correspondant de Fakir qui sera là pour animer un débat qui s'ensuivra. C'est Christophe Bex qui sera là pour animer le débat.
Dans la région, c'est notre préfet de région.
Il sera à Caussade donc, mais vous êtes aussi dans le coin, vous passez à Toulouse, enfin vous passez dans pas mal d'endroits pour montrer votre film, un film qui est pas sans rappeler dans la narration pour le grand public Michael Moore par exemple, hein, c'est-à-dire il y a un côté mise en scène humoristique d'un fait de société finalement, heureusement que vous le faites avec humour, parce que sinon, on aurait carrément envie de pleurer, hein, la plupart du temps.
Ben, je crois que des fois, on a envie de pleurer et des fois, on a envie de rire. C'est parce qu'on rit que l'émotion en prend d'autant plus de relief, mais on est dans des situations qui sont complètement ubuesques. Bon, là, c'est le cas d'une entreprise qui était dans le nord de la France, qui part en Pologne parce que c'est moins cher, qui de Pologne part en Bulgarie parce que c'est encore moins cher, et qui du Bulgarie se demande si elle va partir en Grèce. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui relève à la fois de la tragédie pour les salariés et en même temps de la farce, tellement c'est aberrant, quoi.
Voilà. Mais alors, vous auriez pu le raconter justement de façon très journalistique. Vous faites le choix de cette narration. Vous mettez en scène vous-même et vous êtes tel un chevalier servant. Enfin, vous partez à la conquête d'LVMH comme un sauveur. Enfin, voilà, vous mettez en scène, vous bâtissez un scénario quoi pour raconter cette histoire-là.
Oui, ben, ça commence un peu comme dans les westerns. Vous savez, le début des sept mercenaires, il y a une vengeance où et on va chercher un à un les personnages qui vont permettre de constituer le groupe et d'aller monter l'action. Et ben là, c'est pareil, un à un, je vais chercher les anciens salariés du groupe LVMH, donc le premier groupe de luxe au monde, ou alors l'inspecteur des impôts qui a révélé les secrets fiscaux de Bernard Arnault, des gens qui l'ont connu, pour aller l'interpeller en assemblée générale des actionnaires. Mais c'est vrai pour moi l'interpeller de manière comique, puisque je dis qu'il s'agit de réhabiliter Bernard Arnault et de réconcilier la France d'en haut, donc celle de l'oligarchie, celle des riches, avec la France d'en bas et celle des ouvriers, quoi.
Ah, vous vous faites virer correctement, hein, de l'assemblée générale des petits actionnaires.
Oui. Mais ils sont pas méchants en même temps, hein. C'est pas dire qu'il m'ait cassé le bras ou quoi que ce soit, voilà. C'est dans les règles du jeu, quoi.
Je savais pas. Alors j'ai appris un truc, c'est que effectivement, il y a quand même des règles de sécurité, hein, dans ces grands rassemblements. Vous étiez au courant, vous, que vous seriez relégué dans une salle avec les petits actionnaires?
Normalement, ça se passe pas comme ça. Bon, là, effectivement, il y a un apartheid, puisque les gros actionnaires sont dans une salle et les petits actionnaires sont dans une autre salle. Il y a un apartheid, mais qui est dû au fait que notre groupe avait été infiltré par une top de LVMH, qui était, puisque c'est aussi un film d'espionnage, il nous avait infiltré, et donc il avait livré l'information comme quoi on allait mener une action, et donc du coup, ils ont procédé à cette mesure de sécurité, et ils nous ont mis à part avec d'autres actionnaires qui se demandaient qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec des vrais petits actionnaires qui se trouvaient donc perdus au milieu des activistes, quoi.
Moi, je trouve que c'est cette histoire, cette façon de faire, qui peut être décriée parfois par certains, permet vraiment d'avancer dans le récit et de se. Il y a un vrai suspense qui se met en place, et puis il y a des vrais, il y a des tournures de phrases, moi, qui me font beaucoup beaucoup rire. Il y a un agent de sécurité, enfin pas un petit agent de sécurité, quoi, un gros responsable de sécurité qui se retrouve à un moment chez des gens qui vont perdre leur maison et qui vient négocier. Alors il faut pas tout dévoiler parce qu'il faut aller le voir dans le docu, quoi, mais qui vient négocier finalement le silence de ces gens qui eux vont perdre leur maison, quoi, parce qu'ils sont criblés de dettes, ils peuvent plus rien faire. Et alors il leur dit, ouais, mais alors attention, hein, vous vous taisez, parce que il faut pas aller chercher les œufs dans le cul des poules.
Ouais, faut pas aller chercher les œufs dans le cul de la poule. Et donc là, si vous voulez, c'est comme il y a des moments, je me suis retrouvé dans ce film. Pour moi, la réalité dépassait la fiction, parce que je pense qu'un scénario comme celui-là, moi, j'aurais jamais osé l'écrire, mais je pense qu'il y a personne qui ose écrire ça en disant c'est pas possible que ça se passe de cette manière-là. Et avec notamment ce personnage, moi je dis ce personnage, on croirait des dialogues écrits par Michel Audiard, et lui, on le croirait sorti des Tontons Flingueurs, quoi. Donc vraiment, il y a une espèce de don du ciel qui un dieu, une fée du cinéma qui s'est penchée sur mon berceau et qui m'a amené cet ancien commissaire divisionnaire des renseignements généraux et qui effectue sans le savoir mais une performance à l'écran qui fait que je pense qu'il va être recruté à Hollywood.
Et alors il y a une mise en abîme sur cette scène, parce que allez voir le film rien que pour cette scène, moi je trouve. Il y a une mise en abîme qui est extraordinaire, parce que le mec dit et puis que j'espère que vous êtes bien tout en train de tout enregistrer, alors que les autres lui disent mais non, mais on n'enregistre pas, mais pensez donc être dans...
c'est quelqu'un qui a l'habitude de procéder à une forme d'espionnage en enregistrant, en filmant les gens. C'est les grands groupes font ça et ils font appel à des agents de sécurité pour faire ça. Et là, il énonce comme ça sur le ton de la blague, mais il n'imagine pas à quel point c'est vrai qu'on a retourné l'arme. C'est l'arroseur arrosé. Et là, c'est un peu l'arnaqueur arnaqué, quoi.
Alors, moi, j'ai pas vu votre film. Par contre, là, j'étais sur votre site internet et je lisais un petit peu la communication que vous faisiez pour le présenter. Et j'avoue que je suis un peu perplexe, parce que vous mettez en avant le fait que vous avez piégé LVMH, Bernard Arnault. Et la question que je me posais, c'est quoi en fait le but de votre film? C'est d'humilier Bernard Arnault, de dire c'est pas bien, il licencie des gens? Je comprends pas.
Ben, vous comprenez pas. Vous savez, il y avait un critique qui disait, je ne vais jamais voir les films que je critiquais, et que je dois critiquer, ça pourrait influencer mon jugement. Donc apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne encore. Mais le but de ça, c'est, oui, ça peut être en tout cas de dire que voilà, il y a des hyper riches, et que parvenir à rire d'eux. Et vous savez, le revenu de Bernard Arnault l'an dernier, c'était 9,27 milliards d'euros. C'était l'équivalent de 463 000 années d'une couturière de FCCE. du couturier de ces SSO dont on dit que finalement leur salaire coûte trop cher et donc il faut délocaliser leur emploi en Pologne. Donc à nouveau, on est dans une situation qui est complètement aberrante. Soit si vous le prenez avec de la colère en disant comment ça se fait qu'un homme gagne 463 000 fois plus qu'une femme qui va travailler toute l'année à fabriquer des costumes qui vont l'enrichir et qui en plus on nous dit qu'elle coûte trop cher, ou alors vous le prenez sur le ton, vous essayez de sur le ton de la moquerie, hein. C'est ce qu'on a appelé une stratégie contre hiérarchie, c'est-à-dire le rire, c'est un mode de défense quand il nous est fait violence. Et il est évident que Bernard Arnault, mais il n'est pas le seul, mais enfin parmi d'autres, produit une violence sur le corps social, il a produit une violence sur ses salariés-là, mais sur des salariés qu'il a licenciés par milliers. Il y a une scène où on voit par exemple, j'ai un journaliste qui demande à Bernard Arnault, mais vous avez quand même effectué 8000 licenciements, et il dit juste, mais attention, il y a beaucoup de violence qui est contenue. Quand un homme peut décider comme ça du destin de milliers de personnes, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc soit on le prend, que je le prends là, un peu sur le ton de la colère, soit la colère est pas toujours, elle exclut. C'est-à-dire que si on déverse la colère sur les gens, bah, ça les énerve plus que ça les conduit à l'action. Soit on essaie d'être un peu plus inclusif et puis on utilise le ton de l'humour pour que tout le monde se sente embarqué dans un élan de joie, d'enthousiasme et que ça redonne la pêche à tout le monde. Quoi.
Alors c'est vrai, hein, c'est la France d'en bas qui va s'inviter comme ça dans la France d'en haut. On ressent beaucoup ça hein, dans votre film. J'aime bien aussi cette phrase, je crois qu'elle est de vous, celle-là par contre, de cette bande de pieds nickelés les Picards qui va foutre un peu le bordel quoi hein, tout simplement aussi qui
c'est-à-dire que quand on voit la situation de départ avec cette famille qui est complètement dans la merde et qui est quand même complètement désespérée et les maigres forces à savoir une déléguée syndicale mais d'une usine qui n'existe plus et puis un journal dont personne n'a entendu parler parce que je suis bien conscient de l'incognito de mon propre journal, on se dit et en face d'eux ils ont l'homme le plus riche de France, ils ont le premier groupe de luxe au monde, tout le monde se dit c'est perdu, il y a aucune chance, c'est zéro, et donc de voir que on arrive à remonter du terrain et que David peut encore parfois l'emporter contre Goliath, et ça remet du bon au cœur quoi.
Voilà, les tontons flingueurs dans la lutte des classes, on arrive au bout. Tu voulais répondre juste, Florian réponds que tu vas aller voir le film. Moi, je veux que tu le vois, ce film.
Ouais, non, mais je veux bien le voir. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est que, voilà, vous le prenez avec humour, de manière intelligente, mais j'ai peur que ça engendre plus de la violence chez certaines personnes et que ça continue à stigmatiser les grands patrons. Bernard Arnault, les grands patrons en général, qui sont assez mal vus. On a vu ce qui s'est passé chez Air France il y a pas si longtemps. Donc, moi ça me gêne un peu ce côté-là, voilà. Mais après je le verrai avec grand plaisir.
Ça me gêne pas du tout. Ce qui s'est passé chez Air France ou chez Goodyear, non, moi ça ne c'est pas un truc qui me gêne du coup, tu vois. Donc là il y a un désaccord de fond, je peux pas dire que ça soit un truc qui m'effraie. Alors je pense pas que les gens vont en être conduits cette violence elle ne naît pas de rien, il faut qu'il y ait une profonde colère pour ça. Donc c'est pas les gens en sortant des salles de cinéma qui vont aller chercher un grand patron pour lui arracher sa chemise, mais en revanche se dire qu'il y a un profond déséquilibre quand on sait que les 61 personnes dans le monde possèdent 51% des richesses, que le taux de pauvreté en France il s'accroît tandis que la fortune des 200 plus grandes fortunes françaises c'est à coup de 30% l'an dernier. Bon, on est dans des ordres de grandeur qui peut que réveiller. Donc mon film est là pour réveiller ça et peut-être que j'espère que ça vous réveillera aussi quoi.
On est bien d'accord, moi je suis d'accord avec vous François Ruffin, les tontons flingueurs chez Bernard Arnault en quelque sorte. Non, il y a un peu de ça, vous rêvez. Tu me feras le plaisir de voir ce film
et
d'en faire la critique dans une prochaine émission, d'accord?
Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup monsieur Ruffin d'avoir été avec nous pour en parler sur CFM Radio. Prochain passage dans le coin, Aurélien,
c'est mardi prochain, juste avant la sortie nationale à Caussade.
Voilà, merci infiniment d'avoir été sur CFM Radio pour en parler.
Bonsoir, merci à vous, au revoir.
On va jouer dans 5 minutes au 05 63 930 020. On se retrouve juste après le journal de 18h30.
Info CFM, les infos.
Bonsoir à tous. Le gouvernement, face à la colère des agriculteurs, Manuel Valls tente d'apaiser les tensions et d'apporter des solutions. Il n'avait pas changé depuis 18 ans. L'examen du code de la route nouvelle génération est